recherche coupable.
Le meurtre de Michel Schmitt en 1975 à Rennes, pas la moindre piste en près de 50 ans. C'est l'une des affaires criminelles jamais résolues à Rennes, et sans doute l'une des plus énigmatiques dans l'Ouest, tant l'enquête n'a pas permis d'aboutir à une piste sérieuse. Le meurtre de Michel Schmitt, une femme de 29 ans, le jeudi 30 janvier 1975, en plein centre-ville de la capitale bretonne et en plein après-midi. Je suis Pierrick Baudet et vous écoutez Recherche coupable. C'était il y a 49 ans, il y a donc près d'un demi-siècle que le crime de Michel Schmitt reste une énigme et qu'aucun suspect sérieux n'a été identifié. Par un hasard de l'existence dont elle seule a le secret, c'est une autre affaire de meurtre qui fait la une des journaux en ce mois de janvier 1975. Celui d'Élise Meillant, une professeure de piano de 76 ans à La Rochelle. Une affaire, à l'inverse du crime rennais, qui s'annonçait devoir être résolue en un clin d'œil. Car avant de mourir, la victime avait indiqué à son médecin qui était son soi-disant assassin. Guy Mauvillain, un comptable de 55 ans au chômage. Au terme d'une instruction menée à charge, puis d'un procès qui n'avait duré qu'une demi-journée, et d'un jury qui n'avait délibéré qu'une demi-heure, Guy Mauvillain avait été condamné à 18 années de réclusion. Et ce, malgré le manque de preuves matérielles et les dénégations de l'accusé. Finalement, après avoir passé 10 ans derrière les barreaux, c'est notamment une contre-enquête du chroniqueur Paul Lefebvre qui permettra de démêler le vrai du faux. Il avait retrouvé une voisine de Guy Mauvillain assurant que ce dernier était bien chez lui au moment du meurtre. L'ex-comptable sera acquitté en 1985 à l'issue d'un procès de 4 jours. Mais le véritable meurtrier, lui, n'a jamais été retrouvé. À Rennes, il n'y eut pas autant de rebondissements et de péripéties. La capitale bretonne, à cette époque, est bien secouée par quelques actions de mouvements indépendantistes. En août 1965, 2 attentats sont ainsi commis dans les habitations vides du maire de Rennes, Henri Fréville, et du député UDR, François Ledouarec. Mais cette ville administrative est plutôt réputée calme, comme le confirme Louis Kerbeuf, qui était alors commissaire à la PJ de Rennes.
Je ne garde pas de Rennes à cette époque-là. C'était pas une ville difficile, Rennes. C'est pas... Non. Non, non. La police du commissariat, pas la police judiciaire, mais la police locale, si j'ose dire, la police de la ville, gérait tout à fait bien son affaire. Je veux dire,
Il n'y avait pas beaucoup de crimes de sang.
Oh, ben non, quand même. Non, ben non.
La famille Schmitt, en 1975, connaît encore assez peu la ville. Du moins, elle ne s'est pas tissé un grand réseau de relations. Le couple est arrivé il y a près de 3 ans auparavant, à l'occasion du nouvel emploi trouvé par Jean-Claude Schmitt, un architecte urbaniste. Il avait intégré le service régional de l'équipement et travaillait à élaborer le schéma du littoral breton. Mais le couple n'était pas originaire de Bretagne, lui des Vosges, elle de Seine-Maritime. Ils s'étaient rencontrés alors qu'ils effectuaient leurs études à Rouen. Les beaux-arts pour Michel Schmitt, qui en 1975 ne travaillait pas. Elle avait toutefois commencé à fabriquer des marionnettes et espérait bien développer cette activité. Le couple avait 2 enfants, un garçon de 10 ans et une fillette de presque 2 ans. Et la famille vivait au 10e étage d'un immeuble de la rue Poulain du Parc, juste derrière le bâtiment de la Poste, dans le centre-ville de Rennes. A priori, il n'y avait aucune ombre cachée dans la vie de cette famille. L'enquête, en tout cas, ne trouvera rien qui puisse expliquer le drame qui allait suivre. Nous avons rencontré Jean-Claude Schmitt, aujourd'hui âgé de 82 ans. Il vit désormais près de Rouen. Il n'a rien oublié de cette funeste journée. Il a accepté de relater ce dont il se souvient lorsqu'il est rentré chez lui ce jour-là, après sa journée de travail, et après être allé récupérer son fils à l'école vers 17h30. Or, près de 50 ans après ce drame, son émotion est toujours aussi palpable.
En allant, j'avais cherché mon fils à l'école, Et je rentre à la maison. Et en arrivant, je vois d'ailleurs la porte qui n'était pas fermée. Et je découvre... découvre le corps dans l'entrée. Voilà, puis premier réflexe, c'est de se dire que, qu'est-ce qui se passe, il y a eu un malaise, quoi, c'est pas... Puis très vite, je m'aperçois que c'est pas du tout un malaise. Et puis j'entends ma petite fille pleurer, qui elle était dans la chambre, couchée dans une chambre, et donc elle a dû rester des heures à pleurer en attendant que je rentre.
Madame Schmitt a été tuée d'une douzaine de coups portés par une arme tranchante, probablement un couteau. Mais l'arme du crime n'a jamais été retrouvée. La petite fille qui allait avoir 2 ans dans les prochains jours et qui se trouvait dans une pièce voisine est-elle indemne ? L'appartement, lui, semble ne pas avoir été fouillé, ce qui pourrait laisser penser que le vol n'était pas le mobile du crime. Aussitôt, les policiers mènent une enquête de voisinage. Ils parviennent à établir que la victime a probablement été tuée un peu avant 14h30. Mais les voisines qui étaient présentes dans l'immeuble, à cette heure-là, n'ont rien entendu ni vu de précis. L'une d'elles, qui se trouvait au 9e étage, soit juste en dessous de la famille Schmitt, avait alors témoigné dans West France qu'elle avait perçu un cri peu après 14h. C'était comme un cri d'enfant. Je n'y ai pas prêté attention, mais je n'ai entendu aucun bruit de bagarre, pas même la chute d'un corps sur le plancher ou des pas précipités dans les escaliers. Une autre voisine confirme. Oui, quelques cris vers 14h20. Le commissaire Louis Kerbeuf s'en souvient encore. À une époque où on ne parlait évidemment pas de caméras de vidéosurveillance, ces témoignages n'ont pas permis de faire avancer l'enquête.
Eh bien, on n'a eu aucun témoignage d'aucune sorte. Et je crois que je me rappelle encore d'une question d'un journaliste à l'entrée de la cité administrative dans les premiers jours et qui m'avait demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire. Alors, ben, on ne pouvait même pas faire un portrait robot parce qu'on n'avait, si j'ose dire, aucun témoignage d'aucune sorte. Et voilà, on est parti comme ça dans le vide total. Là.
Aucun élément sur non. Le ou les
Non, c'est leur par définition, si j'ose dire, après, si je me rappelle. Mais en tous les cas, on n'avait aucun témoignage. Personne, si j'ose dire, c'est simple, personne n'a rien vu ou personne n'avait rien vu, quoi. Ni entendu.
L'horaire pourrait-il néanmoins fournir un indice ? Jean-Claude Schmitt avait l'habitude de rentrer déjeuner chez lui tous les midis et d'en repartir un peu avant 14h pour rejoindre son bureau situé à quelques minutes de là. Autrement dit, l'assassin aurait-il pu effectuer des repérages afin d'identifier les habitudes de la famille ? C'est en tout cas ce que semble penser Jean-Claude Schmitt.
C'est ce qui donne l'impression qu'on guette mon départ. Enfin, c'est moi l'impression que j'ai. En disant, c'est pas possible, quelqu'un... D'abord, quelqu'un qui vient, qui a une arme, qui va à cet étage-là, c'est bon.
L'ex-commissaire Louis Kerbeuf, lui, en est moins persuadé.
Je n'ai aucune idée. Hein, je ne peux pas dire à quelqu'un qui se présente comme ça, donc c'est en plein après-midi. Est-ce que ça veut dire qu'il a repéré quelqu'un ? Est-ce que... On pourrait même se demander si des fois c'était Madame Schmitt qui était la première visée. Hein, peut-être, peut-être pas. Est-ce que c'est un facteur d'un concours de circonstances, une rencontre, un porte-à-porte, une découverte voilà. Est-ce que c'est une rencontre fortuite, une rencontre calculée ? Est-ce que c'est, si j'ose dire, le premier tête-à-tête entre la victime et son auteur ? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui... Une personne connue ça reste gros point d'interrogation, tout est possible là.
Je dis ça parce que, donc si le crime a eu lieu vers 14h30 à peu près, comme M. Schmitt rentrait déjeuner tous les midis, est-ce que l'assassin avait repéré par exemple l'heure à laquelle il repartait travailler ?
Oui, exactement. 14h30, dans la vie de tous les jours, 14h30, les gens sont au travail, quoi, généralement. Donc c'est pas un cas exceptionnel, quoi. C'est pas une... c'est pas déterminant, quoi. Non.
Dans cette enquête qui se révèle difficile, les policiers rennais possèdent toutefois un atout dans leur manche. Un petit morceau de tissu arraché par la victime à son meurtrier. Serait-il possible de remonter jusqu'à l'assassin grâce à ce petit bout de vêtement ?
Ah ben, ce bout de tissu, alors là, ce bout de tissu, c'était l'avis de l'enquête. C'était l'espoir, le gros espoir qui a été considérablement déçu parce que ça nous amène à rien. Ça ne nous amenait à rien. Alors pourquoi ? Alors, ce gros espoir, parce que donc c'était un bout de tissu, c'était une poche de vêtements hein, que Madame Schmitt avait arraché à l'agresseur, sûrement au moment où il sortait son couteau. Enfin, peut-être avait-il sorti sa poche en sortant son couteau et Madame Schmitt s'y est accrochée. Donc on avait trouvé ce vêtement montrait bien que la lutte avait été vive quand même. Voilà. Donc nous avions donc ce morceau de tissu. Ce nylon en tissu synthétique. Alors, avec ce tissu, on avait un espoir mesuré, mais un espoir quand même, parce qu'on pensait, avec ce morceau de tissu, peut-être remonter un style de vêtement, enfin, quelque chose de en espérant une originalité qui aurait conduit à, ou du moins, hein, et bien finalement, on a parcouru des centaines et des centaines et sans des kilomètres, pour ne pas dire des milliers. On a fait toutes les usines importantes qu'il y avait dans l'Est de la France en particulier pour savoir auprès des fabricants qu'est-ce que ça pouvait dire, à quoi ça pouvait correspondre, qu'est-ce que c'est. Enfin bon, bref, toutes les questions que vous pouvez imaginer et que nous imaginions. Et puis la réponse a toujours été la même, décevante. C'était une texture ou un tissage le plus banal qui soit, qui pouvait aller dans tous les vêtements ou dans n'importe quel vêtement qui pouvait être produit par tout le monde. Enfin voilà, tout pour noter, je veux dire, avec, en quelque sorte, avec notre pièce, ce machin, on tombait complètement à plat. C'est-à-dire, ça nous amenait à rien du tout. Alors voilà, c'est le drame. Et donc, et puis surtout, alors je dis ça, c'est pour l'avenir, c'est-à-dire en quelque sorte, donc le morceau de tissu, donc pas d'empreinte digitale possible sur cette surface irrégulière, mais par contre, si ça avait été aujourd'hui, nous aurions eu la ressource ADN. C'est ça le truc extraordinaire, quoi.
L'enquête décidément ne sourit pas aux policiers. Ceux-ci possèdent également un groupe sanguin recueilli dans l'appartement, probablement celui de l'agresseur. Mais rien de déterminant là encore. Un élément tout de même intrigue Jean-Claude Schmitt. Dans les affaires de sa femme est retrouvé un ticket de tiercé alors que celle-ci ne jouait absolument pas aux courses. Ce ticket pourrait-il avoir un lien avec le crime ? Les policiers font alors le tour des commerces avoisinants et des PMU.
On a fait les commerces qu'elle fréquentait, on a cherché qu'est-ce qu'il pouvait y avoir effectivement. Bon, parce qu'il y a bien ce qui est décevant pour quand on est dans l'enquête, donc il y a bien quelque chose. Mais enfin, il y a un gros quelque chose, mais un gros quelque chose auquel on passe à côté. Alors on passe à côté, pourquoi ? Eh ben, parce qu'on fait mal notre travail, toujours possible, mais ou parce que la chose fait que le hasard fait que c'est sont des rencontres fortuites et voilà quoi. Poursuivre une enquête, il faut une piste, il faut une... Voilà, c'est pas...
Monsieur Schmitt me disait qu'il avait relevé, lui, une chose étonnante. Dans les affaires, je crois, de sa femme, avait été retrouvé un ticket de PMU. Or, Madame Schmitt, a priori, ne jouait pas au tiercé.
Oui.
Est-ce que vous vous souvenez de ça ? Est-ce que ça a mené à...
Oui, on avait été... Je ne me rappelle pas de ce détail précis, mais oui, dans tous les cas, on avait été au PMU, qui est boulevard de la Liberté, à gauche, là, quand on allait vers la Tour d'Auvergne, là-bas. Donc, oui, on avait fait des vérifications, là. Mais ça ne nous avait non plus... je me rappelle du patron, là, ça nous avait rien donné, ça non plus, là. Et c'est vrai qu'on s'était accroché à des choses comme ça, parce que dans ce fond de poche, il y avait des traces de crayon. Il y avait des traces de crayon bille, de crayon de stylo bille. Alors donc, bon, enfin, ça peut être un stylo bille, c'est un peu tout, vous et moi, n'importe qui, le commerçant, le livreur, voilà quoi. Tout y est. Bon, puis les PMU sont fréquentés par de multiples personnes.
Les policiers lancent encore un appel à témoins, sans grand résultat. Un homme finit bien par s'accuser du meurtre, mais les enquêteurs s'aperçoivent très vite qu'aucune crédibilité ne peut être apportée à ses propos. Ils repèrent également un résident de l'immeuble qui, semble-t-il, évoluait dans l'univers des films pornographiques. Mais cette piste-là, non plus, n'a rien donné. Pas d'arme du crime, personne n'ayant entreaperçu quelqu'un d'inhabituel dans l'immeuble, rien de caché dans la vie du couple Schmitt, l'affaire est d'autant plus complexe que le mobile de ce meurtre demeure lui aussi mystérieux. Combien de fois Jean-Claude Schmitt s'est posé cette question sans réponse au fil de ses 49 années ?
C'est toujours la question que je me pose. Toujours. Pour quelle raison ? Pourquoi ? Qui et pourquoi ? Ça, c'est aucun élément de réponse.
Il n'y a pas eu de vol dans l'appartement ?
Rien, non.
L'appartement n'a pas été fouillé ?
Non.
Pour l'ex-commissaire Louis Kerbeuf, ces mêmes questions ont aussi tourné en boucle. Et ce d'autant plus que, selon lui, toutes les hypothèses restent ouvertes.
Point d'interrogation. C'est une belle femme, hein, avec beaucoup d'allure, distinguée. Donc qui peut se faire donc remarquer dans la rue, quelqu'un peut se jeter son dévolu sur elle comme ça. Tout est possible comme ça. Hein. Sûrement, c'est une femme qu'on devait remarquer parce que par son allure générale, sa coiffure, enfin, elle avait beaucoup d'allure, hein, cette dame. C'est des hypothèses, on peut tout imaginer, quoi. On peut aller du fortuit total à une personne convoitée. Vous pouvez tout faire. Hein.
Vous diriez qu'est-ce qui vous a manqué pour résoudre cette...
Il manque des témoignages, il manque des témoins, il manque des mobiles, il manque une explication rationnelle, il manque de preuves, il manque de preuves à comparer, Si c'était maintenant, on dirait qu'on a une preuve scellée. On l'a là, mais à l'époque, la preuve, on l'a cherchée avec ce morceau de tissu qui était notre preuve, hein, qui nous a motivés, mobilisés pendant des mois là, tant qu'on pouvait. Mais quand les industriels vous disent bon monsieur, vous n'arriverez à rien avec ça, vous n'arrivez à rien avec ça. Boum.
Et que déduire du fait que l'assassin s'en soit pris à Madame Schmitt et pas à la fillette ? S'était-il aperçu de sa présence ? Là encore, des questions sans réponse. Or, avec le juge d'instruction, Jean-Claude Schmitt n'a pas davantage obtenu de précision. Il n'a pas beaucoup été tenu informé des évolutions de l'enquête. Il n'a même jamais reçu aucun courrier lui stipulant si celle-ci était finie, si un non-lieu avait été rendu ou si encore le dossier restait ouvert.
Une fois, le juge d'instruction m'a demandé de venir et m'a donné tous les PV d'audition qui avaient été faites par la police, en me disant « Écoutez, prenez la peine de les lire, puis dites-moi si ça vous... si ça vous évoque quelque chose. » C'est tout ce que j'ai eu comme une fois.
Et les policiers, eux ?
Alors eux, ils me parlaient, mais...
Et ça fait combien de temps maintenant que vous n'avez plus aucune nouvelle ?
Ils avaient repris des choses en... C'est 1990, je crois.
Mais ça n'a rien donné.
C'est pareil, c'était à nouveau des auditions, mais ça n'a Rien.
De temps à autre, les policiers, eux, lui donnaient quelques nouvelles. Depuis 49 ans, Jean-Claude Schmitt vit donc avec ses interrogations et l'absence de réponse. Et à chaque fin janvier, cette souffrance indicible refait surface. Pourtant, cet homme ne perd pas espoir de connaître un jour la vérité, que quelqu'un finisse par dire quelque chose.
De temps en temps, il y a des bouffées qui reviennent. Particulièrement, quand vous m'aviez appelé, là, c'était la veille de l'anniversaire de son décès. Et donc, ça, cette période de l'année, là, toujours un peu difficile. Mais l'espoir que j'avais, c'est un remords de l'assassin, ou quelqu'un qui l'ait connu et qui dise je vais le dénoncer. C'est le seul espoir.
L'ex-commissaire Louis Carbeuf estime lui aussi que tout espoir n'est pas perdu. Mais il mise davantage sur ce fameux bout de tissu. A-t-il été conservé dans les scellés? Si oui, avec les nouvelles technologies, peut-être qu'un ADN pourrait être extrait. Et alors? En tout cas, cette affaire irrésolue, il y pense régulièrement.
Confidence pour confidence, on ne peut pas oublier une affaire comme ça. On ne peut pas l'oublier. Oui, j'y pense, mais j'y pense quand je suis dans les champs où à travailler, là, j'y pense. On a deux ou trois affaires comme ça, où vous êtes à la fois, où on s'applique, on se donne, on essaie d'apporter tout ce qu'on sait faire, on mobilise nos garçons, parce qu'on ne travaille pas tout seul, on est une équipe, donc on fait travailler tout, il n'y a même pas besoin de les faire travailler, ils travaillent tout seuls, le groupe travaille, et puis après, quand vous arrivez devant un mur, c'est pas le seul, mais j'en ai connu d'autres comme ça. Et c'est pas facile. Voilà, c'est là. Ça ne se dit pas, mais c'est comme ça, quoi. Eh bien, de toute façon, je ne sais pas si c'est un espoir raisonnable, mais il faut espérer. L'espoir fait vivre, hein. C'est pour tout. Non, mais c'est lui, il y a les articles, il y a des procès en cours actuellement, vous avez vu, où c'est quelqu'un qui se fait dénoncer des années après. Donc, ce qui serait peut-être, ce serait de savoir si ce scellé de poche a été conservé, parfaitement conservé, parce que tout est là aussi, s'il peut être retrouvé. Et puis si un jour, peut-être, je ne sais pas, si l'affaire peut intéresser, eh bien cette poche, ce petit bout de tissu, il peut être soumis à analyse avec les procédés modernes, ça change la donne. Est-ce que ça apportera l'auteur, le nom de l'auteur, c'est pas forcé, mais en tous les cas, en imaginant que dans l'intervalle, ce même auteur, il soit connu pour une bêtise quelconque, hein, et qu'il laisse ses traces sur je ne sais quel support par ailleurs, voilà quoi. Magnifique.
Un nouveau témoignage, de nouvelles expertises. Jusqu'au bout, Jean-Claude Schmitt espérera que la justice puisse répondre à ces deux questions qui ne le quittent pas.
Qui et pourquoi? Pourquoi? C'est vraiment...
Recherche coupable, une série du Mur des podcasts d'Ouest-France.